Bonsoir et bienvenue dans votre bimestriel préféré consacré à la nourriture, à la cuisine, à la maison ou au restaurant, en pique-nique, quand le temps le permet ou devant la cheminée. En résumé, tout un plat, c'est le magazine où la cuisine se met à table.
Bonsoir Sybille, pendant presque 60 minutes, on va parler de tout ce qui nous nourrit le corps et l'esprit pour le meilleur, mais aussi parfois malheureusement pour le pire.
Et comme nous sommes le 10 mars, soit deux jours après la journée internationale, et oui Donald, des droits de la femme, notre émission du jour va parler de nourriture au féminin, dans une réalisation signée Pablo. Allez, on commence tout de suite.
Aujourd'hui, entrée, plat et dessert sont été préparés par Lorraine Malka. Bonsoir Lorraine. Vous êtes journaliste de presse écrite, podcasteuse, mais aussi autrice. Vous avez été chroniqueuse pour Cosette, mais aussi dans Les Épicurieux. Vous êtes co-autrice du documentaire La France au fourneau. Et si vous êtes là ce soir, c'est pour un essai aussi original que passionnant, paru en 2023 aux éditions Les Pérégrines. Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. On signale que pour ce prix, vous avez reçu le prix Mange-Livre en 2024.
C'est ça.
Alors, il est 20h et maintenant 3 minutes. Déjà, j'ai toujours dit, ce que j'adore, c'est dire l'heure à l'antenne. Normalement, vous faites quoi à cette heure-là?
Normalement, je mange.
C'était juste pour savoir. C'est vous qui préparez le dîner?
Je vis toute seule, donc c'est moi qui prépare le dîner pour moi-même et c'est un de mes grands plaisirs dans la vie.
Vous préparez? Vous achetez jamais tout fait?
Jamais. Je prépare tout.
Non, c'est des produits frais. Indiscret, hein, c'est pour savoir.
Ah non, j'adore parler de ça. Je prépare des produits frais que je me prépare pour moi-même et c'est un très très grand plaisir. Et je passe aussi une partie de ma semaine à préparer en avance ce que je vais faire pour le week-end où souvent je reçois des invités et j'adore préparer les choses en amont. Par exemple, le pain que j'adore faire en plusieurs étapes. Donc le soir, c'est vraiment consacré à ça.
Il y a forcément des hommes jeunes qui nous écoutent et on leur dit de rester ou de partir. C'est vous qui décidez.
Ah non, on leur dit de rester impérativement.
On va leur parler aussi?
Évidemment.
Alors, on va parler en long, en large et en travers de votre livre Mangeuse. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer d'où vous est venue cette idée? Comment le livre Mangeuse est entré dans votre esprit?
Alors, comment m'est venue cette idée? Comme le disait Christophe, effectivement, j'ai écrit un film qui s'appelle La France au fourneau, qui a été diffusé en 2020 pour la première fois sur France 5, mais qui a été rediffusé ensuite plusieurs fois, qui était présenté par François Morel. C'était un film d'archives de 90 minutes qui racontait l'histoire de France à travers ses pratiques culinaires des années 1950 à aujourd'hui. Et dans cette histoire, je me suis rendu compte que, en fait, on mettait toujours en valeur le patrimoine qui porte bien son nom, le patrimoine culinaire, et donc le grand décorum de la cuisine, de la gastronomie, surtout en France, mais qu'on oubliait totalement tout un aspect, tout un pan de l'histoire de la nourriture et de la cuisine, qui est celui fait par les femmes, et encore plus celui mangé par les femmes. Donc je me suis dit qu'il y avait là un grand tabou derrière ce grand décorum de la cuisine. Voilà, comment les femmes mangent, comment les femmes cuisinent.
C'est elles qui le font.
Alors, les femmes ont été depuis très longtemps assignées à la cuisine et justement, c'est quand même un comble de se rendre compte qu'elles sont complètement occultées de cette grande histoire, notamment de la gastronomie qui est évidemment la cuisine rémunérée, professionnelle, celle des hommes. Quoi.
Et donc, au moment où vous avez cette intuition, vous en parlez avec votre famille, vos amis, vous réalisez que d'autres femmes ont cette même perception que vous, vous partez bille en tête?
Là, à ce moment-là, j'ai décidé de lancer un grand appel à témoignages pour savoir quel était le rapport des femmes à la nourriture. Et j'ai lancé cet appel à témoignage de façon très neutre en disant, voilà, je voudrais savoir votre rapport joyeux, gourmand, convivial à la nourriture, mais aussi plus tourmenté. Et j'ai recueilli beaucoup de témoignages à l'oral, donc vraiment avec souvent des visios, parce que j'ai fait ça beaucoup pendant le confinement, donc de femmes, de jeunes femmes, de différents âges, de différents milieux sociaux, qui m'ont raconté pendant plusieurs heures d'entretien à chaque fois, des choses qui d'abord étaient vraiment liées à leurs souvenirs, à leur enfance, à leur façon de cuisiner à la maison, etc. Mais aussi la culpabilité qu'elles ressentaient quand elles mangeaient. Et donc là, j'ai décidé de mener une deuxième enquête, historique cette fois, pour savoir à quand ça remontait, ce sentiment de culpabilité vis-à-vis de la nourriture.
Et oui, parce que c'est là que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une matrice commune à tous ces discours.
Exactement. Exactement, une matrice commune qui est celle d'une très fréquente anxiété, en fait, dans le rapport au manger. Et là où je reviens à la première question, Christophe, sur comment, en quoi ça concerne les hommes et pourquoi les hommes doivent rester avec nous, c'est que très souvent, depuis que mon livre est en librairie, et je ne m'y attendais pas, ça fait partie des surprises, je reçois des courriers, enfin plutôt des messages, souvent sur Instagram, de la part des hommes qui me disent que grâce à mon livre, ils comprennent mieux la femme avec qui ils ont vécu. Donc, soit leur femme, soit leur mère, leur sœur, et qui ont ce rapport très très intense et souvent inquiet vis-à-vis de la nourriture. Donc voilà.
Espérons que ça change leur regard sur leur fille, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui fait que vous décidez de faire un livre plutôt qu'un article, puisqu'à l'époque vous êtes journaliste à Causette, vous auriez pu commencer par des articles. Vous avez tout de suite su que ça serait un livre ? Vous avez tout de suite senti l'ampleur du continent caché, entre guillemets ?
Alors, à partir du moment où j'ai commencé à... Je n'étais pas sûre tout le long de l'écriture. Ça a duré 3 ans, cette recherche. Je crois que pendant les 3 ans, il n'y a pas un seul moment où j'ai été sûre d'aller au bout de ce livre, tellement justement l'ampleur de la tâche était immense. Et notamment quand j'ai commencé à enquêter sur la partie vraiment historique, c'est-à-dire où je me suis rendu compte que c'était une très très longue histoire, que la première anorexique que je trouvais, parce qu'évidemment il s'agit aussi de ça, je la trouvais au 5e siècle et que ça traversait les siècles et qu'à travers les témoignages que je pouvais recueillir dans le passé, je trouvais énormément de choses. Les débats théologiques que j'ai pu creuser pour chercher à savoir si les femmes sont plus ou moins vulnérables face au péché de gourmandise, selon la théologie notamment. Voilà, donc il y a tellement d'aspects que, évidemment, je me suis même demandé si ce n'était pas une thèse universitaire que je devais faire.
Mais justement, non, ce n'en est pas une, on peut le dire, pour l'avoir lu. C'est que vous avez lu beaucoup, vous avez digéré, et je suis désolé, c'est vraiment le mot qui s'impose. Et est-ce que ça faisait partie de votre projet, justement, si je comprends bien, ça s'est fait en cours de route, mais il y a aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de formidablement généreux dans votre livre, c'est qu'on voit tout ce que vous avez lu, que vous nous donnez, que vous nous rendez accessible. Je veux bien croire qu'il y a 3 ans de travail, voire plus, parce que c'est très très riche, quoi. Vous êtes allé chercher dans de nombreuses directions.
Ma mission, c'était vraiment de réussir à rendre ça digeste, et le mot est tout à fait bien choisi. Donc, je rentre à chaque fois par une thématique, et surtout, je rentre très souvent par le témoignage des femmes, les témoignages que je recueille, qui sont très vivants, et qui sont même assez drôles, souvent, et assez, voilà, assez joyeux, même s'il y a aussi des aspects plus tragiques. Mais souvent, les femmes ont cette pudeur qui les amène à rire, en fait, de leurs propres troubles, y compris de leurs propres troubles de conduites alimentaires, qui parfois sont tragiques, mais en fait, la façon dont elles en parlent est très vivante. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on m'a déjà dit que ce livre se lisait comme du petit lait.
Vous nous avez parlé donc déjà du 5e siècle. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, l'histoire du regard porté sur les femmes remonte à la nuit des temps, au jour 1 de notre humanité?
Avec Adam et Ève.
Exactement, ouais. J'ai vraiment cherché à m'intéresser aux représentations, à l'histoire des représentations des femmes depuis l'Antiquité, donc à travers la mythologie. Si on veut citer vraiment les premiers exemples, le Pandore
Faut expliquer.
Alors Pandore, en fait, c'est la première femme humaine de la mythologie grecque. Mmh. Et elle est présentée, elle est racontée par Hésiode, et elle est présentée par Hésiode comme une gastère, c'est-à-dire vraiment un ventre, c'est vraiment un ventre de chienne, dit-il, à l'intérieur d'un corps merveilleusement gracieux. Et donc c'est toujours l'idée de femme très perfide, rusée, qui en fait, à l'intérieur d'un corps merveilleusement beau, cache un estomac de chienne qui, dit Hésiode, va vider les provisions de l'homme. Donc sous-entendu, les provisions alimentaire, mais aussi sexuelle, son énergie sexuelle. Et donc ça, c'est la première représentation d'une femme qui mange. Ensuite, on a, en parallèle de ça, en fait, c'est un peu l'équivalent occidental de Pandore, c'est Ève dans la Bible, qui croque la pomme et qui la tend à Adam, et donc qui est accusée du péché de gourmandise, mais le péché de gourmandise étant, selon Thomas d'Aquin, le premier péché, c'est-à-dire le moins grave de tous, mais en fait, c'est celui qui mène à tous les autres. Donc, c'est celui qui amène à dévaler la pente des péchés jusqu'à la luxure, l'orgueil, voilà, jusqu'au pire.
Moi, j'avais
péché.
Oublié que c'était une gourmandise, c'était un péché, pour tout vous dire.
Vous avez bien raison d'oublier ça. C'est quelque chose que les femmes parviennent pas tellement à oublier, justement.
Et là, dans ces deux mythes ou récits religieux, on a déjà c'est toutes les tensions que vous décrivez, tensions entre pouvoir manger beaucoup mais avoir une allure svelte et gourmandise et sexualité. Donc
exactement.
Pouvoir manger et sexualité.
Exactement. Et avec cette idée de soupçon qui pèse sur les femmes qui mangent. Soupçon justement de commettre le péché de gourmandise et de luxure, effectivement, qui est jamais très loin du péché de gourmandise.
Quel est le problème des femmes avec le sucré? Enfin, celui qu'on leur prête, en tout cas.
Celui qu'on leur prête, vous faites bien de préciser. Alors, effectivement, il y a ce motif qui est récurrent dans l'histoire des représentations des femmes, qui consiste à associer les femmes à l'attrait du sucre. Et en fait, c'est surtout une façon de les infantiliser et de les maintenir dans un rapport primitif en fait à la nourriture, qui est celui de l'enfant, parce qu'on considère que les femmes, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très récurrent, très souvent répété dans l'histoire, les femmes ne sont pas capables de sophistiquer leur goût, de raffiner leur palais, et donc elles ont un goût qui est celui de l'enfant, une attirance naturelle vers le sucré qu'elles ne parviennent pas à raffiner. Et ça c'est présent à la fois, encore une fois, dans l'Antiquité, dans les premières représentations des femmes dans l'Antiquité, dans la mythologie. Mais c'est présent aussi dans la publicité aujourd'hui, où on voit toujours les femmes en train de jouir sexuellement, en train d'avoir un orgasme sexuel en mangeant un cône glacé. Pendant que les hommes sont capables, eux, de goûter la moutarde, le café, tous ces goûts qui demandent une certaine éducation du palais.
Et vous avez cité Adam et Ève, est-ce que c'est intrinsèquement lié à la religion, l'idée de nourriture enfin la relation en tout cas, qu'on prête entre les femmes et la nourriture?
Alors, ce que moi j'ai voulu questionner, c'est est-ce que les femmes sont considérées justement par les théologiens qui débattent pour interpréter la Bible, est-ce que les femmes sont considérées comme plus sujettes au péché de gourmandise que les hommes? Et ce qui est vraiment établi par Thomas d'Aquin, qui tranche un peu le débat, parce qu'il y a tout un débat à un moment entre théologiens, à savoir est-ce que Ève a péché plus que Adam, ou est-ce qu'ils ont autant péché l'un que l'autre, puisqu'ils ont tous les deux croqué dans la pomme. Et est-ce que Ève est plus responsable ou non d'avoir mené l'humanité au
désastre?
Parce
que c'est elle qui tend la pomme.
C'est elle qui tend la pomme en premier, mais, disent certains, elle est quand même sous la responsabilité d'Adam, puisqu'elle sort de la hanche d'Adam.
De sa côte,
dans le texte. Et donc, selon certaines traductions, en tout cas. Et... Non, mais c'est vrai.
Non, moi, je suis
tout à fait. Et donc, certains théologiens disent, évidemment, c'est la femme est perfide, Ève est perfide, et toutes les femmes derrière elle le seront, elle est plus coupable. Et certains disent, non, c'est pas exactement ça, et notamment Thomas d'Aquin dit, la pauvre femme a moins accès à la raison que l'homme. Ça, c'est Aristote qui l'a dit. Aristote, à l'époque, c'est vraiment le scientifique incontestable. Donc, elles ont moins accès à la raison. Elles sont moins capables de lutter contre leurs pulsions, contre leurs passions. Et donc, il va falloir les gouverner et leur empêcher d'avoir la main qui va toute seule dans le pot de confiture, puisqu'elles n'ont pas elles-mêmes accès à une raison qui permette de réguler cela.
Ça, c'est terrible. En fait, elle est innocente, mais parce qu'elle est inférieure.
Exactement.
On pourrait croire, d'un premier côté, qu'elle est innocente, mais...
Mais non, certains, en fait, certains disent que Thomas d'Aquin était féministe, parce qu'il a vraiment pris la défense des femmes. Mais en prenant leur défense, il a un peu...
Oui, dans les deux argumentaires, on se retrouve quand même pas forcément dans la meilleure position.
Exactement. Donc lui, il a dit, la femme n'est pas une erreur de la création divine. Alors, il ne faut pas supprimer toutes les femmes, donc quand même, merci Thomas d'Aquin. Mais en revanche, il a dit, attention à elles, elles sont incapables de se gouverner toutes seules, donc il va falloir que les hommes les gouvernent.
Il y a quand même cette chose que vous rappelez dans le livre aussi, qui est important, et on a envie de résumer en... Mais c'est pas grave. Le lien entre sexualité et nourriture, c'est que quand on parle de nourriture, on parle de bouche, on parle de ventre. Et c'est ce que vous expliquez très bien, c'est que tout ce... Très souvent, ce que les hommes, alors je ne sais pas si je ne suis pas psychanalyste, mais ce qu'ils projettent quand ils parlent de la nourriture des femmes, c'est aussi une angoisse par rapport au sexe et par rapport à la sexualisation de la femme.
Oui, exactement. Et c'est vraiment là aussi quelque chose qui est absolument... C'est comme un motif qui n'est pas questionné à travers les siècles et qui est, en fait, qui traverse complètement. Moi, je me suis vraiment amusée à parcourir la littérature, le cinéma, la publicité et la mythologie pour aller un peu... pour rembobiner encore. Et à chaque fois, il y a ce motif de la femme associée à la sexualité dans sa façon de manger qui n'est jamais questionnée à tel point qu'en 2017, le CSA a carrément déploré la sexualisation des femmes dans les publicités alimentaires.
On écoute un peu de musique.
C'était Maurice Heidels, The Dream Pixels. Il est 20h21, vous êtes toujours sur Radio Campus.
Paris. Et c'est toujours tout un plat avec Lorraine Marca, autrice de Mangeuse aux éditions Les Pérégrines. Alors quel lien vous faites entre tous ces interdits qui pèsent sur les femmes dont on vient de parler dans la première partie de l'émission et la sublimation par le langage du manger, moi j'appelle ça, je ne sais pas si on dit ça, du manger, qu'on retrouve chez beaucoup de femmes écrivaines. On dirait qu'elles parlent d'autant mieux qu'elles ne mangent pas, c'est tout un paradoxe chez de nombreuses femmes autrices.
C'est une question que je soulève, en fait. À un moment dans le livre, je me pose la question de savoir si, en ne mangeant pas, les femmes ne développent pas un rapport particulier à l'écriture culinaire, puisque je me base sur mon expérience à moi. Moi, j'ai toujours eu cette difficulté, ce rapport très anxieux à la nourriture. Et en même temps, il se trouve que j'adore écrire sur la nourriture, j'adore cuisiner, j'adore préparer à manger et j'adore écrire ce que je mange et ce que je prépare. Et je me suis demandé si c'était quelque chose de partagé. Et quand j'en ai parlé avec des personnes écrivaines qui étaient spécialistes de l'écriture culinaire, elles m'ont dit que mon intuition était bonne puisqu'elle ressentait elle aussi exactement ça, notamment Ryoko Sekiguchi qui est un peu...
Votre préfacière.
Qui est ma préfacière, qui n'était pas au départ prévue pour être ma préfacière. J'ai juste à l'illustrer. Elle était tellement ambassadrice de tout ce que je racontais dans mon livre qu'à un moment, quand je lui ai demandé de relire les propos que j'avais relayés et que j'avais écrits par rapport à ce qu'elle m'avait confié. D'un coup, je me suis dit, mais ce serait extraordinaire qu'elle écrive la préface de ce livre, et elle a accepté, ce qui était vraiment un honneur génial pour moi. Mais en tout cas, voilà, donc elle confie qu'elle a exactement ce sentiment-là, et d'autres femmes écrivaines, alors notamment l'exemple premier, c'est vraiment Colette, qui est la première... en fait, à faire des chroniques culinaires dans le magazine Vogue dans les années 30, et qui, dans ses chroniques culinaires, écrit carrément, imagine en fait une narratrice qui est anorexique, qui ne mange pas et qui donc doit réaliser des recettes complètement immangeables, du poisson au coup de pied avec des éléments de la forêt, un peu de ciel bleu. Enfin, c'est vraiment complètement de la sorcellerie en réalité, elle le dit elle-même. Et tout ça pour
existe,
ne pas manger.
C'est édité encore, ça a été réédité ces recettes.
Oui, ça a été édité dans un livre dont le nom m'échappe.
C'est que ça me donnait envie de le lire.
Mais
vous
oui,
en parlez tellement bien.
C'est fabuleux.
Et Colette est quand même un écrivain qui n'a pas la place qu'elle mérite, donc allons-y.
Et surtout, je pense qu'on ne la comprend pas bien, parce que très souvent, vous avez vu comme moi, je pense, des couvertures de magazines qui parlent de Colette gourmande, et on ne signale pas, en fait, le motif littéraire de l'anorexie qui est très, très présente dans son œuvre. Et je pense que c'est, en fait, un motif littéraire à part entière qu'il faudrait étudier davantage, en fait.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que le langage est porteur de tous les biais masculins aussi qu'on porte sur les femmes. Vous avez cité le mot gourmande, justement, il est tellement utilisé à plein d'estiens différents et pas forcément les bons que tout le langage est empreint de ce regard.
Complètement. La femme gourmande, c'est évidemment celle qui est considérée comme sensuelle, c'est pas celle qui mange. Et de même, c'est assez étonnant de voir à quel point le langage est imprégné de ça, si vous le dites très bien. Et notamment, quand on parle de femme gourmande, quand on parle de femme de plaisir, je remarque à un moment dans le livre la différence très discrète entre celui qu'on appelle l'homme de plaisir et celle qu'on appelle la femme de plaisir. L'homme de plaisir, c'est celui qui prend du plaisir, qui se prête à des orgies sexuelles, alimentaires. La femme de plaisir, c'est celle qui donne du plaisir. C'est la prostituée, la courtisane qui vend le plaisir aux hommes. Et donc, vraiment, d'un côté, on a l'homme qui est sujet du plaisir et la femme qui est objet de plaisir. Et je dis dans le livre que je n'imagine pas que cette nuance très discrète du langage ne se retrouve pas dans la société. Souvent, c'est le cas.
Alors, vous montrez aussi et vous rappelez cette histoire incroyable qui est celle de l'invention du restaurant, qui est un lieu pour les hommes, mais où les femmes n'ont pas le droit d'aller, en fait. Dès lors que le restaurant devient une affaire publique et économique, eh bien, les femmes n'ont plus leur place. J'avais envie de dire qu'on renvoie les femmes à la cuisine, mais celle de leur maison.
J'ai pensé à ça tout à l'heure, Christophe, quand vous disiez, moi j'avais oublié que la gourmandise était un péché. En fait, c'était exactement que vous disiez ça, c'était le but de Grimaud de la Reynière, qui a créé la gastronomie, ce qu'on a appelé après lui la gastronomie. Il a réuni des convives dans des restaurants pour apprendre à parler de la nourriture, de la cuisine, mais de façon intellectuelle. Et son but à lui, c'était de déculpabiliser les gens qui aimaient manger et de leur faire oublier que c'était un péché. Parce qu'ils se disaient, mais c'est pas possible, on va pas culpabiliser 3 fois par jour à chaque fois qu'on mange. Donc il a décidé de déconnecter, de dissocier en fait le mangeur, le glouton rabelaisien qui mange avec son ventre et associé aussi aussi à une sorte d'aspect primitif, animal, ouais, et sexuel. Donc, il a plus situé la gourmandise du côté du ventre, il l'a situé du côté du palais, de la langue, qui est beaucoup plus proche du cerveau. Et donc, il a cherché à rendre ça très érudit, très intellectuel, très littéraire, dans l'imagerie qu'il a convoquée et dans les gravures où il se représentait avec des livres. Donc, vraiment, il a associé l'idée de littérature et d'intellectualité,
enfin, tout ça
à la gourmandise.
Aux hommes, pas aux femmes.
Et il y avait une règle chez lui, c'était les femmes ne sont pas autorisées à venir déguster avec les gourmets. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'elles sont incapables de raffiner leur palais et donc d'intellectualiser la gourmandise. Elles ne sont capables que d'aller vers le sucre, vers des gourmandises faciles. C'est encore cette idée-là. Donc ça, pour lui, c'est biologique. Et d'autre part, parce qu'elles sont excitantes et qu'elles risquent de déconcentrer les hommes dans l'art très sérieux qui consiste à manger.
Et là, pardon Sybille, hein, mais je ne peux pas m'empêcher de citer votre livre parce que vous retrouvez une anecdote. On est donc 200 ans plus tard, en 1975, chez Pivot. Bernard Pivot, grand présentateur d'émissions littéraires avec Christian Guy, un chroniqueur.
Et fan de gastronomie.
Et qui sort, parce qu'on lui dit qu'il est misogyne, et qui répond devant François Giroud, qui est d'ailleurs ministre de la Condition féminine, mais est-ce que les femmes ont du talent à cuisine ? Certainement pas, ça se saurait. On verrait des femmes inventer un plat, on verrait un Bocuse femme éclat de rire sur le plateau. Les convives se bidonnent car ils ont cru entendre un Bocuse de femme. Et là, on se dit, mais...
Pouf. Voilà. Oui, parce que femme et érudition, en fait, et nourriture, c'est que jusqu'à très récemment... qu'on peut faire le lien.
Exactement. Et surtout, la suite de l'émission, je la raconte après, c'est que... Mais vous avez choisi un passage parfait, mais la suite, c'est que Christian Guy, donc ce chroniqueur gastronomique assez connu à l'époque, dit qu'une femme est absolument incapable de sophistiquer sa recette et de l'améliorer au fil du temps, puisqu'elle l'interrompt au milieu en se disant « Oh, mais non, qu'est-ce que je vais porter comme bas ce soir. »
Elle file, elle laisse tout roussir et le morceau de viande, il est complètement cramé.
Voilà. Les femmes sont inconséquentes et n'ont pas de cerveau et sont, encore une fois, incapables de cuisiner. 1950
ans. C'est pas la préhistoire, c'est 50 ans.
Et ça fait écho à vraiment ce que disait Aristote, à savoir les femmes n'ont pas de cerveau. Elles ne sont pas capables d'avoir une raison, contrairement aux hommes.
Et ça veut dire que, en fait, le droit des femmes à avoir de l'appétit et manger sereinement et le droit des femmes tout simplement, ou en tout cas aller à l'encontre d'un système patriarcal, c'est un même combat.
Exactement. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on... On se rend compte là à quel point le savoir peut vraiment libérer et à quel point le fait de comprendre cette histoire, justement, il y a ce parallèle entre savoir et saveur c'est la même étymologie, sapere. Et je pense que vraiment, on est là-dedans. C'est-à-dire que Grimaud de la Reynière, son idée, c'était de dire c'est en rendant la nourriture et la gourmandise intellectuelle et rattachée au savoir qu'on va déculpabiliser les hommes et non pas les femmes qui, elles, n'ont pas cette autorisation. Et donc, je pense que les femmes qui sont en train d'aller vers une forme de savoir collectif qui est celui du féminisme, qui est celui de déconstruire les croyances patriarcales, vont être autorisées elles aussi, enfin, vont s'autoriser elles-mêmes à s'exonérer des différents péchés dont elles sont si souvent soupçonnées.
Il y aurait beaucoup de choses encore à raconter. C'est que, par exemple, comment on parle de cuisine de bonne femme qu'on oppose à la grande cuisine. Mais ce que vous montrez aussi, c'est à quel point ces représentations sont tellement fortes que c'est encore assez vrai aujourd'hui dans le milieu de la critique gastronomique, où en gros les hommes sont critiques gastronomiques et les femmes elles racontent ce qui est bon à manger à la maison, quoi.
Oui, elles préparent la cuisine quotidienne, ce qu'on appelle la popote de tous les jours.
Parce que vous avez interviewé, vous, des critiques gastronomiques femmes, ça reste un milieu difficile ?
Ça reste un milieu très difficile. L'une des critiques gastronomiques que j'interviewe s'appelle Estherelle Payani. C'est vraiment elle qui... Elle se dit elle-même la schtroumpfette du milieu parce qu'elles sont très, très rares à être payées pour ce métier. Et voilà. Donc oui, c'est vraiment aujourd'hui encore très difficile.
Ah, c'est toujours tout un plat. On a fait un test, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, on continue, on enchaîne en musique. Allez!
de paquet Kérouan. Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme. Pêcher au cormorant et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent.
Oh là là, ça encore, pardon Pablo pour ce que j'ai fait tout à l'heure, pardon, je recommencerai plus jamais. C'était Voyou, Syracuse, une reprise d'Henri Salvador qui n'a qu'un défaut, elle est bien trop courte. C'est toujours tout un plat sur radiocampusparis.org avec Lorraine Malka et Sybille.
Oui, moi je voulais continuer un peu cette conversation. Ma question était la suivante. C'était, en fait, c'est tout un système qui se construit parce que vous parlez aussi de la beauté, du luxe. Donc en fait, à travers la vision qu'on a du corps de la femme, c'est au-delà de du secteur, par exemple, agroalimentaire, etc. C'est... ce qui en découle, c'est que tous les autres secteurs qui s'adressent à la femme reprennent ce même
stéréotype
de corps de la femme. Donc on va lui proposer des produits beauté en relation avec ce corps qu'on projette.
Oui, en fait, c'est vrai que c'est le premier élément qui vient à l'esprit quand je dis que je m'intéresse à l'histoire des femmes et de la nourriture. C'est tout de suite la silhouette, la forme corporelle. Et ça n'est pas la première chose que j'ai voulu étudier, questionner, parce que je considère que ça n'est que l'un des leviers qui contribue à renforcer ces stéréotypes, comme vous dites, et à empêcher les femmes de manger. Mais effectivement, l'histoire de la minceur est vraiment passionnante à étudier parce qu'on se rend compte, quand on l'étudie de près et surtout quand on l'étudie d'un point de vue féministe, que les hommes comme les femmes doivent répondre à une norme de minceur. Ça, c'est vraiment, ça concerne les hommes et les femmes indistinctement. En revanche, il y a quelque chose qui est spécifique aux femmes et qui est très très ancien et qui est encore là aujourd'hui, c'est que les femmes doivent être minces comme les hommes, par bienséance sociale, pour manifester leur rapport à la sobriété, leur capacité à se maintenir, à se contenir, etc. Mais elles doivent aussi être grosses à certains endroits du corps, et notamment dans les parties érotisées, sexualisées, à savoir les fesses, les hanches et les seins. Et ça, dit Simone de Beauvoir, c'est une façon de demander aux femmes de signaler leur disponibilité sexuelle et procréative. Et il y a un moment dans l'histoire qui est assez récent où les femmes commencent à se débarrasser de ce qu'on appelle leur rondeur molle, c'est au début du féminisme. Et en fait, c'est une revendication féministe qui consiste à aller travailler, se débarrasser des corsets, des jupons, de tout ce qui justement crée cette silhouette en sablier, pour avoir une silhouette qui ressemble à celle du travailleur. Et donc une silhouette plus androgyne, qui est celle de la garçonne, avec une, voilà, un aspect plus élancé, plus musclé. Et là, effectivement, comme vous le disiez, Sybille, il y a cette récupération par le marché qui consiste à... Enfin, c'est ce qu'on appelle le backlash. Suzanne Faludi le décrit comme le premier backlash. C'est l'idée de faire regretter aux femmes leur élan féministe. Donc leur dire... Vous voulez être mince, vous voulez être maigre et sans rondeur, molle, comme les femmes domestiquées, eh ben, allez-y les femmes et torturez-vous pour ça. Faites du sport et soyez maigre.
On va juste rappeler que les féministes, moi je précise toujours, hein, c'était dans les années 20, mais du siècle dernier, c'était à peu près il y a un siècle. Les garçons,
voilà.
Pardon. Pas.
Exactement, pardon, c'est les années 30.
Le livre de Victor Marguerite, c'est 28, je crois.
Oui, exactement, qui s'appelle La garçonne. Et ça court en fait entre les années 30 et les années 70, cette mode très nouvelle. Vraiment ce corps, cet idéal féminin corporel qui consiste à être sans rondeur et élancé, musclé, et qui en fait au fil des décennies va devenir quelque chose qui se retourne contre elle et qui devient une torture.
Une nouvelle tension interne pour les femmes.
Exactement.
Non, je ne vais pas faire du mansplaining dans cette émission.
Non, mais est-ce que c'est là que rentre en jeu ce que vous appelez les injonctions intenables, ou c'était encore avant ?
Les injonctions intenables, pour moi, c'est déjà celles qui sont très très anciennes, qui consistent, et qui sont encore actuelles aujourd'hui, qui consistent à être mince et grosse à la fois. Et qui, en fait, on le sait, hein, je pense, Sybille, on est, je pense, deux autour de cette table à avoir cette expérience commune, pardon Christophe.
Mais
je pense que vous avez pu le constater avec vos sœurs, vos mères, autour de vous, les femmes, qui... subissent cette injonction à garder leur poitrine et leurs hanches et leur aspect un peu tripotable, comme je dis dans le livre, mais tout en étant mince dans la totalité du corps. Et c'est quelque chose que les pharmacies essayent de nous vendre comme quelque chose de possible, de maigrir seulement sur certaines parties du corps, mais pas partout. Mais on sait d'expérience que c'est absolument impossible et que c'est souvent très nocif, en fait.
Mais ça revient un peu à la mode avec aussi les Kardashians.
Mais c'est pas que ça revient à la mode, c'est que ça n'a jamais cessé de l'être.
Par rapport aux garçons, je veux dire.
Je pense que les garçons, c'est une sorte de mode parallèle qui s'est développée.
C'est pas le même milieu social, peut-être. C'est aussi, il y a peut-être une sociologie où on pourrait croiser.
Peut-être.
Mais parce que là, vous racontez même qu'il y a des gens qui vont se faire opérer pour ressembler aux Kardashians.
Absolument. Alors,
je sais plus son prénom, je suis navrée.
Kim Kardashian.
Je pense pas qu'elle écoute, elle sera pas fixée, mais je suis navrée.
Qui sait. En tout cas, oui, bien ressembler à Kim Kardashian avec cette silhouette en forme de sablier qui est considérée dans la croyance. Absurde comme étant la silhouette la plus adaptée pour procréer, alors que en fait voilà, c'est simplement une silhouette qui a été de tout temps, hein, je pense pas qu'à un moment elle ait été démodée. Il peut y avoir plusieurs modes à la fois, et ce qui est vraiment très nouveau, c'est cette mode, donc à partir des années 1930, c'est cette mode de la garçonne, de la femme androgyne qui n'a pas de forme, qui n'a pas de rondeur, mais c'est une mode qui s'est développée en parallèle de celle qui a toujours été en vigueur, à savoir la femme en sablier.
Ouais, je pense en même temps, parce que moi j'aime le vieux cinéma, c'est en gros Catherine Hepburn, la garçonne, et Marilyn Monroe qui est le retour d'une femme à la fois mince et ronde.
Le retour ou la constance.
Ouais, la constance.
Voilà,
et il y a vraiment les deux pôles. Au passage, en lisant votre livre, on découvre... moi, j'ai toujours entendu parler de ça. Donc, j'ai réalisé que j'avais été élevé dans... On m'avait menti. Rubens, c'est pas vrai, quoi.
Alors, c'est pas tellement que c'est pas vrai, mais c'est...
c'est vraiment un mythe. Je pense que beaucoup de monde ont entendu dire qu'autrefois, les belles femmes étaient les femmes plantureuses, rondes.
Oui, mais en fait, on adore chercher à savoir ce qui était justement le retour de telle mode, etc. Ah, ça y est, le body positive permet aux femmes d'être plus corpulentes. Alors qu'en fait, il y a toujours cette nécessité, quand on est corpulente, d'être corpulente juste à certains endroits du corps. Et alors Rubens, ce qui me faisait rire, c'est qu'effectivement, quand je disais aux gens en écrivant cette enquête que je m'intéressais aux femmes et à la nourriture, évidemment, le premier réflexe des gens, c'était de me parler de la forme corporelle et de me parler de Rubens. C'était vraiment comme une poupée automatique qui répondait ça automatiquement. Mais Rubens, c'est bien la preuve qu'à une époque, c'était à la mode d'être plantureuse. chinoise. Et en réalité, Rubens, ce qu'on découvre, c'est qu'il aimait peindre les graisses. C'était quelque chose qu'il aimait peindre. C'était, voilà, il aimait peindre ça. Ça l'intéressait en termes vraiment esthétiques et en tant que peintre. Mais par contre, il a écrit tout un traité de la beauté dans lequel il explique bien à quoi doivent ressembler les corps des femmes. Et les corps des femmes doivent être avec des petits seins bien pointus qui remontent, des fesses bien charnues, mais qui soient bien hautes et bien fermes, et une minceur évidemment sur la totalité du corps. Et il l'explique noir sur blanc.
Oui, parce que la mode d'être plantureux, c'était quand même la réaction à un regard masculin, de toute façon. C'était pas une mode parce que la femme allait laisser libre cours à sa gourmandise et à sa joie de manger. C'était plus parce
Exactement.
Qu'on voulait répondre à un corps,
Exactement.
Avoir un regard.
Et comme vous dites, parce que ce que j'ai repéré, c'est que donc, si nous, à notre époque, on connaît des produits en pharmacie qui nous promettent de maigrir sur la totalité du corps, sauf les seins et les hanches, à certaines époques, on faisait autrement, c'est-à-dire qu'on gavait les femmes avant le mariage pour leur permettre justement de développer toutes ces formes, et on les massait de façon torturante pour leur permettre de rester minces sur la totalité du corps. Donc en fait, on a toujours eu cette double injonction complètement impossible à réaliser d'être mince et grosse à la fois.
Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce qui se passe sur les réseaux sociaux ? Parce que alors, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça, que les réseaux sociaux, et on a permanence des recettes, des injonctions, des images, comment il faut faire pour être musclé comme ci, pour s'habiller comme ça. Il y a des gens qui expliquent comment on met bien un t-shirt, par exemple. Ça me fascine. Il y a des gens qui font des tutos pour expliquer. Mais bon, je m'éloigne un peu du sujet.
Non,
mais il y a aussi tout ce qui est sur la diététique, les aliments, et avec, à mon avis, la moitié des conseils qui sont mauvais et qui doivent faire plonger des jeunes filles et des jeunes garçons, parce qu'il y en a quelques-uns dans l'anorexie aujourd'hui.
Mais
c'est terrible,
sujet,
ça me fait très peur, moi.
Ouais, c'est un sujet passionnant, et effectivement, sur les réseaux sociaux, ce qui est saisissant, c'est de voir qu'on est vraiment à une période où les sujets les plus... Enfin, les photos, par exemple, sur Instagram, qui est vraiment le réseau social de la photo, les photos qui remontent le mieux, c'est-à-dire qui sont favorisées par l'algorithme qui n'est pas neutre et qui favorise certains contenus, ce sont des photos de corps, surtout féminins, surtout féminins, et d'assiettes, avec cette idée du porn food, mais aussi du healthy food. Enfin, il y a vraiment les deux.
Ouais, il y a un truc qui est pas clair là-dessus.
Il y a vraiment les deux aspects, et ça a été très bien étudié. Je vous conseille cette lecture d'un livre de la chercheuse que je cite dans mon livre, qui s'appelle Clémentine Hugol-Gential, et qui a sorti un livre il y a pas longtemps, son premier livre grand public. Moi, ce que je cite dans mon livre, ce sont ses travaux de recherche, mais elle a sorti un livre grand public très très intéressant sur l'alimentation et les réseaux sociaux, où elle montre que cette articulation entre les algorithmes qui favorisent les contenus liés au corps et à l'alimentation et le discours qui est très très en vigueur dans la santé publique depuis les années 2000, qui culpabilise les individus sur des sujets de santé publique, à savoir en culpabilisant notamment l'obésité et en cherchant des solutions individuelles à des problèmes de santé publique, ce double mouvement-là donne lieu à des contenus sur les réseaux sociaux qui sont vraiment très très culpabilisants, notamment pour les femmes ou pour les personnes qui sont sujettes à des troubles des conduites alimentaires.
Je pense notamment aux jeunes femmes et aux jeunes hommes. Parce qu'il y a un âge où on peut prendre du recul, mais quand on se prend ça en direct et qu'on cherche des conseils, on en arrive aux chiffres que vous donnez sur les TCA, les troubles de comportement alimentaire.
Oui, et qui sont sûrement les chiffres étant bien en dessous de la réalité.
Et là, on est encore dans ce backlash, si j'ai bien compris l'utilisation de ce terme, de beaucoup de liberté, en tout cas ce qu'on en dit dans des réseaux sociaux et comme on regardait les réseaux sociaux, surtout quand ça s'est développé dans les années 2010, où on pouvait tout mettre et avoir la parole et s'exprimer comme on le souhaitait et être chacun dans sa différenciation, et qui en fait nous réduit à un carcan encore plus fort qu'avant.
Exactement. Je pense vraiment que de toute façon ça a été repéré, donc le backlash qui est cette tendance, ce retour de bâton et qui est très très visible dans les luttes sociales en général, mais en particulier dans les luttes féministes, se passe très très souvent quasiment simultanément, ou alors juste après une progression féministe. Et là, effectivement, on est en plein dedans.
for someone to be quiet with, who will take me home. You go to loud places to find someone who will take you higher than I took you. I take you to higher places you can't reach without.
C'était Jamie XX Loud Places feat. Romy, et nous sommes toujours dans Tout un plat.
Et qu'est-ce que vous parlez bien anglais, Sybille ?
N'est-ce pas ?
Pas comme moi. Hein. Allez, on est toujours avec Lorraine Malka, autrice de Mangeuse aux éditions Les Pérégrines, l'histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. On va parler un peu de celle qui se prive à l'excès. On parlait à l'instant des réseaux sociaux et des mouvements pro-Anna. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Parce que peut-être que des gens qui nous écoutent sont concernés. Il faut quand même rappeler que c'est une maladie très dangereuse, l'anorexie.
Oui, en fait, plusieurs femmes que j'ai interrogées m'ont parlé de ces sites pro-Anna. Elles me racontaient ça comme vraiment quelque chose de leur, une banalité de leur quotidien, en me disant « Ah, à une époque, j'y allais, maintenant, j'y vais plus. » Enfin, vraiment comme si c'était quelque chose, comme si c'était un réseau social comme un autre, quoi. Et donc, au bout d'un moment, j'ai essayé de comprendre ce que c'était. Et il s'agit de, en fait, de se réunir en temps entre femmes anorexiques pour se donner des conseils, pour devenir anorexique, pour le rester, pour l'être sans être pris
démasqué.
Démasqué par leurs proches. Donc vraiment, c'est des conseils, mais c'est aussi pour s'en sortir. Et donc, c'est très désarmant,
très ambigu, en fait.
Très ambigu, parce que c'est à double tranchant. C'est aussi leur façon à elles de se confier, de développer une complicité, une sororité aussi entre femmes, pour se confier et éventuellement réussir à s'en sortir. Et ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il y a eu toute une époque où les sites pro-ANA étaient très facilement accessibles pour ces femmes, donc sur les réseaux sociaux habituels, sur des groupes de parole, etc. Et au bout d'un moment, ça a été interdit. Et donc aujourd'hui, quand on cherche le hashtag ProAna, par exemple, sur Instagram, sur TikTok, etc., parce que c'était aussi beaucoup lié à TikTok et aux défis TikTok dont on a beaucoup entendu parler, qui sont des défis alarmants, où on essaye de...
J'ai découvert celui de la feuille de papier. Ça m'a laissé sans voix. T'imagines que des femmes veulent... Enfin, pardon, je ne veux pas faire du mansplaining, mais... Ouais. Parce que là, si je fais un truc qui n'est pas du tout radiophonique avec ma feuille, il faut avoir une taille qui soit moins large qu'une feuille A4, c'est ça ?
Voilà, et il faut le prouver avec des petites photos, des petites vidéos, et ça fait partie de ces défis TikTok de ProAna. Et aujourd'hui, quand on tape le hashtag ProAna, on reçoit un message immédiat qui nous dit « vous avez des problèmes » et qui nous donne un numéro à contacter, etc. Donc, ces femmes étant renvoyées vers des appels au secours, elles ont été amenées à développer des réseaux plus clandestins sur des groupes d'abord WhatsApp, puis sur des groupes Signal, sur des groupes Telegram, qui leur permettent de continuer à conserver leur communauté d'entraide, qui est parfois très ambiguë, comme vous disiez Christophe, et qui est quelque chose de très inquiétant, mais je ne sais pas si la bonne solution, c'est de les interdire.
Bah ouais, je tiens à être très clair, hein, parce que j'ai dit que c'était horrible et tout ça. Je ne veux pas être dans le jugement des personnes qui sont dans ces situations, qui sont souvent des situations de souffrance, et c'est plutôt les inciter à en parler. Peut-être si vous avez des amis autour de vous, dont vous voyez, qui ont l'air de plus manger beaucoup, peut-être d'en parler avec elles, d'essayer de les, c'est souvent des filles, de les aider. Je me sens presque un rôle paternel vis-à-vis de ces jeunes filles qui nous écoutent peut-être. Donc voilà.
Mais c'est très bien dit, et ce qui est compliqué, c'est que comme ce sujet est très tabou, on se sent forcément très maladroit et maladroite face à ces personnes-là. Et effectivement,
prenez le risque d'être maladroit.
Exactement. D'aller les voir et de leur parler en essayant le mieux possible de prendre des pincettes.
Et c'est pas grave, pardon, allez-y. Non, et moi ça me touche, donc allez-y.
Ouais, mais
non, mais c'est pas grave si elle, si cette personne, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, hein, c'est pas grave si cette personne vous renvoie dans les cordes. Vous avez planté une graine et un jour elle se rappellera que vous lui avez dit. Donc.
Et ce qui est important aussi dans ces cas-là, je pense, qui peut aider, c'est aussi parce qu'en tant que femme, on a très souvent flirté avec ce qu'on appelle le spectre des troubles des conduites alimentaires.
Ouais.
Donc, on a très souvent été concernées. J'osais à peine le dire avant, mais maintenant, j'ose le dire après avoir vraiment mené l'enquête. On est extrêmement nombreuses à avoir flirté avec ça à un moment ou à un autre de notre vie, ou à y avoir carrément sombré. Et donc, le fait de se confier à une femme qui en souffre et dont on observe qu'elle en souffre, et le fait de lui ouvrir aussi notre expérience en lui disant voilà, moi aussi, j'ai eu ça ou j'ai ça, ce problème-là, déjà, ça peut permettre d'ouvrir une petite porte au partage de parole.
Justement, dans votre livre, on voit bien le rôle de l'éducation aussi entre souvent les mères et les filles. Et qui n'ont pas forcément été très bien réalisées. Est-ce que vous avez des exemples ou que vous auriez vu des cas où justement l'alimentation n'est pas une obsession ? Comment faire du coup pour qu'une fille qui grandit ne soit pas obsédée par son corps, ne soit pas obsédée par la nutrition et passe par un chemin qui soit sain ?
Alors moi, ce que j'explique dans le livre, c'est que ce n'est pas tellement une question de relation entre mère et fille ou une question d'éducation, puisque, encore une fois, le système est tellement ancien, le système que je cherche à déconstruire et dont je cherche à montrer les mécanismes est tellement ancien et tellement ancré que les mères ne peuvent malheureusement pas y échapper. C'est très très difficile de ne... Voilà, donc moi je lutte contre la culpabilisation des mères qui est si fréquente, mais vraiment si fréquente dans le domaine de l'anorexie. On est tout le temps en train de les montrer du doigt en disant que c'est de leur faute et que c'est aussi comment elles se sont comportées avec leur fœtus quand il était dans leur ventre, etc. Mais c'est incroyable à quel point on pointe la culpabilité des mères alors que elles évoluent dans un système qui empêche les femmes de manger. Donc, c'est
oui, quoi
difficile.
Qu'il arrive, elles vont tomber sur des histoires, des mythes, quelque chose qui va leur inculquer ça dans la tête.
Exactement. Et moi, la seule chose que je peux conseiller, c'est de ne pas nier, en fait, justement, parce que je pense que les mères, là aussi, sont très nombreuses à avoir souffert de cette problématique. Et le fait de le transmettre et de dire à leur fille qu'elles aussi, elles ont eu cette problématique et d'essayer d'expliquer pourquoi elles ont eu cette problématique, que c'est une problématique très ancienne qui remonte à vraiment à l'histoire de l'humanité et surtout de la condition féminine, je pense que c'est quelque chose d'éclairant et qui peut permettre justement, encore une fois, de désindividualiser et de politiser le problème.
Pour terminer, je voudrais citer... Pardon, j'ai coupé la parole, Fabien Sibyl.
Non,
mais... allez-y.
Non, mais je sais que vous avez eu justement des très bons retours sur votre livre. Peut-être qu'on pouvait terminer aussi là-dessus, sur les retours des personnes qui ont lu
votre
livre.
Oui, ce qui est vraiment une belle surprise, c'est qu'effectivement, le livre est en librairie depuis un an et demi et je reçois quotidiennement des messages de femmes qui me disent que ce livre les a aidées à lutter contre leur propre anxiété alimentaire. Et ça, c'était pas mon but à l'origine et je pense que ça prouve à quel point, encore une fois, le fait de déconstruire des mécanismes à l'œuvre depuis des siècles permet aussi de se libérer individuellement.
Moi, pour terminer, j'ai cité Royko Sekiguchi qui a écrit la préface de votre livre. Alors, je vais être obligé de lire vite, il faudra repasser au ralenti chez vous. Pour moi, pendant longtemps, manger n'a été que source de culpabilité. J'étais prisonnière de mon corps qui devait se nourrir pour exister. C'est l'acte d'écrire qui m'a permis d'effectuer un exorcisme plus que nécessaire. Et un peu plus loin, elle dit « Écrire sur la nourriture est un moyen d'être face à soi-même profondément sans le regard des autres. » Je voulais juste vous demander si c'était ce qui vous était arrivé. Je l'ai lu très vite, hein, désolé.
C'est très beau, c'est vraiment Ryoko Sekiguchi. Je l'adore et je trouve ça magnifique qu'elle écrive ça et qu'elle confie ça, parce que c'est très difficile pour une femme de confier ça.
Et c'est très bien écrit en plus.
Et c'est très bien écrit, toujours Ryoko. Moi, ça n'est pas mon histoire exactement. L'écriture ne m'a pas sauvée, mais elle me permet de comprendre et ça, c'est effectivement libérateur, oui.
Lorraine Malka, merci beaucoup d'être passée par le studio de Radio Campus. Je rappelle le titre de votre livre, Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. C'est aux éditions Les Pérégrines dans la collection Genre. Voilà, c'était Tout un plat, magazine de Radio Campus Paris où la cuisine se met à table. L'émission est produite par Christophe. La rédaction en chef était assurée par Sibyl et les deux présentés. L'émission réalisée par Pablo. Vous pouvez retrouver ce numéro et tous les précédents sur le site de radiocampusparis.org, rubrique Tout un plat. Il est déjà 20h59 et 4 secondes et je dois vous quitter. À dans 8 semaines.